Tom Bühlmann.
Bonjour, une édition record pour Stand d'été à Moutier. Le festival s'est clos hier soir. L'édition 2025 qui avait débuté le 21 juin. Et à l'heure du bilan, Alain Tissot, le président du comité d'organisation, a encore des étoiles dans les yeux.
Elle a été exceptionnelle. On la voulait comme ça, on rêvait qu'elle soit magnifique et qu'elle soit pleine de couleurs. Et en fait, au bilan, c'est le cas. On est super contents. On a eu une très très bonne fréquentation, on a eu un temps magnifique, des gens heureux, des sourires partout. Donc voilà, moi je dirais qu'elle a été exceptionnelle. Je n'ai pas de chiffres parce que c'est toujours un peu délicat. On a la salle et là on a 320 places qu'on a remplies, je dirais dans 80% des cas à peu près, ce qui est au-dessus de ce qu'on faisait les années précédentes. Mais après on a aussi une grande fréquentation sur l'esplanade où là il n'y a pas d'entrée payante, donc on ne peut pas vraiment savoir le nombre de personnes qu'on a, mais on est certainement autour des 6-7 000 personnes qui sont venues sur le festival.
Stand d'été fêtait aussi ses 20 ans, c'est un anniversaire réussi, donc quel souvenir allez-vous en garder?
Je vais en garder certainement un souvenir d'une énergie rare. Je crois que tout le monde s'est mis autour de nous, donc nous c'est le comité, et on a senti vraiment un grand élan de la part de tous les gens qui gravitent autour de l'organisation de ce festival et des soutiens. Là je parle des partenaires financiers notamment, mais je parle aussi de la population qui nous a encouragés, qui nous a remerciés, qui était présente. C'est une sorte de grand élan, j'ai l'impression qu'on a poussé tous ensemble un gros navire sur une pente ascendante, puis qu'on est arrivé quelque part en haut, et là il y a le soleil qui arrive, il y a quelque chose comme ça. Voilà, on est au lendemain, c'est le premier jour du démontage, mais c'est la vision que j'ai en fait de ce qui vient de se passer.
Alain Tissot explique que le comité d'organisation est dans une dynamique d'une nouvelle édition de Stand d'été en 2027. Toutefois, il prévient qu'il faudra reconsidérer ou réinventer la formule magique du financement, notamment le soutien de fonds publics. L'Ukraine sort du traité d'Ottawa. C'est le sixième État à quitter ou à annoncer l'intention de quitter ce traité qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnelles. Une décision qui a été annoncée ces derniers jours. Une situation qui inquiète Frédéric Guerne, le président de la Fondation Diger, lui qui souhaite justement envoyer une machine de déminage en Ukraine.
Pour moi, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. On est complètement d'accord là-dessus. Donc je ne me permets pas de juger la décision de M. Zelensky. Lui, il fait face à une guerre sur son territoire. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, M. Zelensky donne suite à en fait, une dynamique qui a été déjà initiée par plusieurs pays baltes qui se sont déjà aussi annoncés comme se retirant en fait, du traité d'Ottawa. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui est très dangereux parce qu'on a un espèce d'effet domino où les traités d'Ottawa qui luttent contre les mines antipersonnelles, ils ont démarré il y a 27 ans maintenant. La dynamique était parfaite dans le sens où tout le monde a accepté de jouer le jeu. On a eu énormément de pays signataires. Et tout à coup, maintenant, on est dans une espèce d'effet de retrait sous la pression de conflits. Et pour moi, c'est très grave parce qu'en fait, jusqu'où va s'arrêter maintenant ce retrait des différents acteurs signataires, quoi. Donc là, il y a une dynamique qui m'inquiète beaucoup.
Et après l'Ukraine, c'est la Finlande qui annonce sa sortie du traité anti-mine. Le président a promulgué vendredi le retrait de son pays de la Convention d'Ottawa à laquelle Helsinki avait adhéré en 2012. Le président invoque des menaces sécuritaires. Les étrangers payent plus cher leur loyer en Suisse. En moyenne, les ménages étrangers en Suisse versent 10,5% de plus que les ménages suisses. C'est ce qu'indique la Sonntagszeitung. Elle se base sur des chiffres de l'Office fédéral de la statistique et le phénomène est observé dans toutes les régions. Plus de 6 000 emplois seraient menacés en cas d'acceptation de l'initiative visant à réduire la redevance à 200 francs en Suisse. C'est ce qui ressort d'une étude de la Confédération reprise par le Sonntagsblick. La SSR devrait alors licencier 3 000 personnes selon ce rapport, à quoi s'ajouterait la perte de 2 450 postes à plein temps dans des entreprises externes. L'Office fédéral part du principe qu'une acceptation de l'initiative donnerait lieu à une centralisation des activités, une mesure qui s'oppose à la loi fédérale sur la radio et la télévision. L'ambassade de Suisse à Téhéran est à nouveau ouverte. Elle avait été temporairement fermée le 20 juin en raison de la situation instable dans le pays. C'est ce qu'a communiqué aujourd'hui le département fédéral des affaires étrangères. L'ambassade reprendra progressivement ses activités. Scène unique au Mont-Blanc, alors qu'un alpiniste unijambiste a dû être secouru. L'homme se trouvait dans l'incapacité de redescendre en raison d'un problème avec sa prothèse. Il a pu monter sur le toit de l'Europe occidentale à 4805 mètres et c'est sur la redescente à 3800 mètres d'altitude qu'il a été secouru. Premier gros incendie de la saison en France. Les Bouches-du-Rhône et l'Aude ont été touchés, trois départements encore sous la canicule. L'autoroute A9 a été coupée pendant plusieurs heures hier en plein week-end de départ en vacances, notamment entre Sète et Montpellier. Les bouchons ont atteint 10 km dans les deux sens. Le bilan monte à 50 morts au Texas après des inondations éclairs survenues vendredi soir. 27 enfants sont toujours portés disparus. Ils participaient à un camp d'été proche du fleuve Guadalupe qui a subitement débordé en augmentant de 8 mètres en 45 minutes. Environ 860 personnes ont été évacuées dans cet état du sud des États-Unis. Un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas débutera ce dimanche au Qatar. Elles vont tenter de trouver un accord de cessez-le-feu et une libération d'otages à Gaza, indiqué à l'AFP une source palestinienne proche des discussions, en précisant que la délégation du mouvement islamiste palestinien se trouvait déjà à Doha. RJB Sport. L'équipe de Suisse féminine de football obligée de se relancer dans son Euro. Deuxième match contre l'Islande ce soir à 21h à Berne. Après avoir digéré la défaite frustrante contre la Norvège, la Suisse est quasiment contrainte de l'emporter. Une nouvelle défaite pourrait être synonyme d'élimination en cas de match nul entre la Norvège et la Finlande qui se retrouvent à 18h. De quoi rajouter une pression supplémentaire qu'il faudra gérer, à vous franchement la gardienne de l'équipe de Suisse, Livia Peng.
Wir sehen es eigentlich so, dass wir das einfach offen ansprechen wollen und auch offen darüber reden wollen, dass wir es im Team auch.
On voit qu'on veut l'aborder d'une manière honnête et franche. Nous parlons de cela avec l'équipe. Nous avons eu une réunion hier sur la manière de gérer cette situation. Nous avons dit que nous voulions simplement être ouvertes pour aussi pouvoir demander aux autres « Hey, comment tu te sens? Tu es nerveuse ?» C'est normal dans le sport de compétition et dans un tournoi comme le nôtre. Et au final, c'est une pression positive parce que nous faisons tout ce que nous aimons. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler.
Am Ende ist es positiver Druck, weil wir dürfen alle das machen, um was wir lieben. Und ja, deswegen, ich glaube, es ist auch wichtig.
Des propos traduits par Émilie Mumenthaler. Équipe physique, c'est surtout sur coup de pied arrêté et en contre-attaque que l'Islande pourrait se montrer dangereuse. La Suisse est prévenue après deux nuls contre les Islandaises cette année en Ligue des Nations. La Nati est convaincue qu'il y a mieux à faire ce soir à l'image de l'attaquant Iman Benet.
Bon, on ne l'a pas battu, mais si on regarde le tout dernier match qu'on a joué contre elle, c'était en Islande. Eh ben, on a fait 3-3, mais si on regarde les buts qu'on prend, c'est de nouveau des erreurs de nous. Donc il faudra qu'on soit plus efficace quoi, pour dégager le ballon loin du but et pas prendre de risques derrière. Ouais, je pense que c'est le genre d'erreur qu'on ne fait pas deux fois et puis on va marquer nos occasions.
Des propos requis par la RTS. Après un match éprouvant face à la Norvège, il a fallu gérer la récupération et la chaleur aux entraînements. Le préparateur physique de la Nati, le jurassien Michel Kohler, y a fait attention.
Dans la planification qu'on a prévue, on ne savait pas encore la météo qu'il allait y avoir. Tout ce qui se peut se faire en amont, en termes d'hydratation, l'alimentation, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on a juste fait un programme un peu différent pour les 3 jours entre les matchs de groupe. C'est-à-dire que là, par exemple, à Bâle, on a directement fait une petite séance d'entraînement pour les joueuses qui avaient moins joué, pour qu'elles puissent bénéficier du même jour de repos que toutes les autres ici à Thun. Par contre, après le match de dimanche à Berne, ce sera différent. Là, on fera plutôt la compensation le jour d'après. Mais sinon, je dirais que pendant la phase de groupe du tournoi, les entraînements sont vraiment des entraînements avec une composante quasiment exclusivement tactique.
Suisse-Islande, coup d'envoi, 21h au Wangdorf de Berne. Norvège-Finlande s'affrontent avant à 18h à Sion. C'est déjà la plus longue étape du Tour de France qui attend le peloton cet après-midi. 209 km dans le nord avec une arrivée à Boulogne-sur-Mer. Étape au profil très accidenté qui pourrait augurer une bagarre entre puncheurs. C'est le Belge Jasper Philipsen, vainqueur de la première étape au sprint hier, qui s'élancera en jaune. Arrivée prévue peu avant 17h30. La poisse pour les régionaux engagés sur le rallye de Bourgogne-Côte Chalonnaise ce week-end. Le prévôtois Olivier Burry a effectué une violente sortie de route et a dévalé de 30 mètres dans un ravin après s'être heurté à une pierre au milieu de la chaussée. Lui et son copilote Stéphane Felet s'en sont sortis indemnes mais ont dû être secourus pour s'extirper de la voiture submergée par les arbres et les ronces. Le jurassien David Erard a lui abandonné après 3 spéciales et une sortie de route qui a endommagé son échappement et son catalyseur. Et enfin, Alphonse Kilschmann de Sonsbeau a dû abandonner dans la première spéciale. Max Verstappen partira en pole position cet après-midi au Grand Prix de Grande-Bretagne en Formule 1. Le Néerlandais sur Red Bull partagera la première ligne avec le pilote McLaren Oscar Piastri. Lando Norris sur McLaren et George Russell sur Mercedes seront en deuxième ligne devant les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Départ à 16h. Et on termine ce journal avec la météo. La pluie va tomber dans quelques instants sur la région là où ce n'est pas encore le cas. Elle rythmera l'après-midi, la soirée et la nuit. Demain, des conditions variables et venteuses sont attendues. Le retour du beau est lui attendu pour mercredi. Les températures baissent drastiquement. Demain, il fera entre 13 et 17 degrés à Tramelan, Tavannes et Saint-Imier. Il fera entre 14 et 20 à Moutiers et entre 15 et 21 à Bienne et à la Neuville. 12h26, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite un bon dimanche.